Merci beaucoup, Tatiana, pour cette introduction limpide qui définit, je crois, bien l'enjeu et les perspectives d'Impact Santé, une première édition que nous sommes ravis d'ouvrir avec vous, Cynthia Fleury et Jean-François Delfrécy. Le thème, en effet, que nous allons explorer et le biais d'humanité emblématique de vos responsabilités vont donner le ton de la journée et ruisseler sans doute d'ailleurs sur la plupart des tables rondes. Toutes les vies sont-elles d'égale valeur ? Vos expériences, vos convictions vont nous éclairer et stimuler, je pense, notre appréhension intime d'une question éthique fondamentale qui elle-même soulève grand nombre d'autres questions éthiques. Cette expérience, Cynthia, c'est celle que vous exercez comme philosophe et psychanalyste sur le terrain, auprès des âmes blessées et même brisées. Vous êtes professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé du CNAM, titulaire de la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Vous êtes également autrice d'essais, le dernier en date étant le remarquable La clinique de la dignité. Nombre de faits d'armes vous distinguent, cher Jean-François Delfrécy, qui est professeur d'immunologie clinique. J'en retiendrai quatre. Votre engagement depuis 1983 dans la lutte contre le sida, votre gestion pour la France de l'épidémie Ebola, votre présidence du Comité consultatif national d'éthique depuis 2017 et bien sûr la présidence du Conseil scientifique Covid-19. Je précise que la biographie « Un médecin au front » publiée au Seuil l'automne dernier est offerte à chaque spectateur. Mais d'abord, en quelques mots, que vous inspire le libellé de ce dialogue ? Pourquoi, selon vous, la question mérite-t-elle d'être posée ? Toutes les vies sont-elles d'égale valeur ? Cynthia ?
Tout simplement parce que je pense que ce que chacun, et c'est ce que j'essayais de raconter dans la clinique de la dignité, c'est-à-dire chacun fait malgré tout l'expérience d'un paradoxe assez constitutif de notre modernité, c'est-à-dire une revendication extraordinairement forte, constante, et qui n'est pas, si vous voulez, feinte. Hein, et une intériorisation de la norme de dignité très forte. C'est pas rien, ça, dans les cultures occidentales, d'avoir des jeunes gens qui naissent aujourd'hui avec le fait de penser que leur vie vaut quelque chose. Et ça a été une grande conquête de la modernité de permettre à l'individu d'intérioriser cette norme de dignité. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Et puis, de l'autre côté, la rémanence de la modernité comme fabrique récurrente de nouvelles situations indignes ou de continuation de situations indignes. Et donc ce hiatus-là fait que les gens se sentent piégés d'une certaine manière entre une conscientisation extrêmement forte, un désir du déclaratif de nos politiques publiques. C'est un des grands piliers, si vous voulez, de l'exigence démocratique de nos états de droit. Et puis, de l'autre côté, cette façon de dire pour beaucoup, je ne peux plus faire mon métier dignement. Vous voyez, c'est tout simple. C'est-à-dire une banalisation des modes dégradés et de ces modes dégradés, à un moment donné, un sentiment de vie dégradante, de vie indécente et de pénibilité très, très, très forte de ceux qui sont pourvoyeurs de dignité pour la fabrique collective de la dignité.
Jean-François, pour vous faire réagir, je vais prendre un exemple assez concret que vous avez connu au moment où vous étiez, bien sûr, président du Conseil scientifique. C'était, je pense, au mois de mai, juin de l'année 2020. La déclaration du philosophe André Comte-Sponville sur les ondes de France Inter, appelant à privilégier le sort de la jeunesse, à ne pas la sacrifier au nom des populations âgées les plus exposées au virus. Dit autrement, et de manière un petit peu caricaturale bien sûr, mais il semblait indiquer que l'existence d'un jeune pouvait être d'une valeur plus élevée que celle d'un aîné. Comment avez-vous réagi ? Et finalement, cet exemple incarne-t-il pas justement la question que nous explorons ensemble ?
Beau penseur, mais il pense ce qu'il veut. Moi, je pense autrement. Non, je pense que notre société démocratique est une belle démocratie. Se reconnaît à sa capacité à protéger les plus fragiles. En tout cas, c'est la vision que je m'en fais. Et c'est le rôle du politique de pouvoir annoncer à la nation qu'on va protéger les plus fragiles. Et je pense que dans toute la discussion et que j'ai pu avoir au début de la crise Covid avec le président de la République sur est-ce qu'on allait, est-ce qu'on montait un conseil scientifique ou pas. Ce qui m'a finalement dit d'y aller, c'est deux réflexions de sa part qui ne sont pas tellement connues. Premièrement, c'était le fait de dire « je vais m'appuyer sur les connaissances scientifiques ». Et le deuxième, c'est de dire « on protégera les plus fragiles ». C'est-à-dire, et on commençait à le savoir à ce moment-là, début mars, qu'on allait protéger les personnes les plus âgées. Et on ne savait pas encore que ça se ferait peut-être en partie au détriment, en effet, d'une population plus jeune. Donc c'est un choix complexe, mais où la science a avancé au fur et à mesure des mois. Alors, dans la remarque que vous faites sur le mois de juin, c'est un peu pour répondre à Comte Sponville, que par ailleurs est quelqu'un qui a une pensée très, très construite, hein, mais très construite dans un sens. Et je pense qu'une démocratie doit pouvoir avoir plusieurs pensées pour se construire. Je me suis interrogé, moi, au moment du déconfinement, sur la façon, si à un moment donné, je l'ai dit et écrit, si on n'avait fait pas passer la santé, dans une certaine mesure, au nom de la santé, c'est-à-dire continuer à confiner dans certains EHPAD, certains directeurs d'EHPAD, etc., plus que finalement l'humanité. Et c'est pas un de mes regrets, mais presque. Hein. On n'était pas opérationnel au niveau du conseil scientifique, mais c'est une vraie question.
Cynthia, indépendamment de la pandémie, diriez-vous qu'aujourd'hui, notre considération de la fragilité, notre considération de la vulnérabilité qui est différente, notre appréhension aussi de la solidarité sont particulièrement agressives ou au contraire, progressent-elles ?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du paradoxe, si vous voulez. C'est qu'elle progresse dans une conscientisation très forte, une intériorisation de cette norme-là. Et puis en plus avec cette idée que le « prendre soin » entre guillemets de cette fragilité, de cette vulnérabilité n'est pas que simplement interhumaine. Il se joue quelque chose avec, c'est aussi la question du One Health aujourd'hui qui nous organise à l'international, c'est-à-dire de dire, voilà, se prendre soin, il va jusqu'au lien avec le vivant dont j'ai besoin pour moi-même bien me porter, etc. Donc on voit que ce déclaratif est très fort et en même temps, les formes qui sont les nôtres, nos choix de vie, d'hyperproduction, nos systèmes qui sont face aujourd'hui, encore une fois, à des failles systémiques très très fortes. Ce que venait de dire Jean-François sur la question de la pandémie, si vous voulez, c'est terriblement important parce que, de fait, demain, nous rentrons dans un monde de failles systémiques très fort. Des failles systémiques, ça veut dire que ce qui se passe à Wuhan se passe X jours plus tard sur l'ensemble du système, hein, je caricature. Donc, c'est ça, une faille systémique. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une faille systémique ? On fait de l'état d'exception. Et qu'est-ce que l'état d'exception ? C'est de la sortie du régime de l'état de droit et c'est de la conception très souvent biologisante de la santé. Or, bien évidemment, on ne fait pas donc de la santé au sens de l'OMS, c'est-à-dire conception holistique, etc. Et quand André Comte-Sponville, que nous connaissons parfaitement pour et l'apprécier et l'avoir à nos côtés, l'avoir eu à nos côtés au CCNE, quand André dit ça, il fait ce choix classique de l'éthique utilitariste qui, à un moment donné, va scorer les personnes selon leur espérance de vie, selon leur place dans la société, qui est une éthique, on le sait très bien, c'est l'éthique de l'urgence, c'est une éthique particulière de l'état d'exception, très efficiente et terriblement antinomique de l'éthique prudentielle. Donc, moi, je suis comme Jean-François, je défends et je pense que demain, parce que nous allons rentrer dans un monde de failles systémiques énormes, si nous lâchons d'emblée sur cette idée que, tiens, l'éthique utilitariste, c'est toujours la bonne réponse, c'est simple, c'est un monde inhumain qui se prépare et antinomique de la considération de la dignité de la personne humaine.
Jean-François, vous l'avez éprouvé lorsque vous étiez justement aux commandes de la lutte contre le sida. Vous, Cynthia, également, parce que vous êtes dans un domaine, la santé psychique, qui est aussi est maltraité, on va dire, par le collège politique, par le collège médical, par la société tout entière. Et Jean-François, vous avez vu, notamment au début de l'épidémie, combien une communauté pouvait être stigmatisée. Ça signifie quoi sur l'inégale considération en fait, des maladies ?
Alors, C'est vrai que bon, je dis souvent moi, que je suis un bébé sida avec des cheveux blancs. Et qu'il y a dans la salle d'ailleurs un certain nombre de collègues qui ont démarré une partie de leur carrière à l'occasion du VIH-SIDA, qui nous a tous interpellés en tant que jeunes médecins devant l'impuissance que nous avions. Et devant, et c'est vrai, un certain nombre de communautés qui se sont d'ailleurs très bien organisées à cette occasion. Et qui nous ont interpellés, au bon sens du terme, avec ce monde associatif qui s'est construit. Ce qui s'est passé de plus fondamental, en dehors de, bon, des découvertes majeures et du fait que la médecine a été impuissante trop longtemps, mais que finalement la science a repris le dessus, et on doit toujours avoir ça en tête quand on est dans une forme d'impuissance, on doit toujours croire à la science, toujours croire à l'innovation dans une certaine mesure, mais peut-être le plus fondamental, si je regarde 40 ans plus tard, ce que ça nous a appris, c'est que la maladie, elle appartient au patient, elle n'appartient pas au médecin. Et que c'est le patient qui, éclairé par le médecin, doit pouvoir décider de son choix. Et ce sont des questions qui demeurent. C'est une sorte de fil rouge. Après le VIH-SIDA, il y a eu d'autres grandes questions.
C'est également, pardonnez-moi, c'est également la question qui se pose
et
dans le débat sur
la fin de vie actuellement.
Exactement.
Qui est une des grandes questions.
Cynthia, la santé psychique, la négligence, parce que le mépris que nous lui conférons, ça signifie quoi? Ça dit quoi de notre société aujourd'hui?
Non, mais c'est très juste que vous avez encore des maladies qui sont plus stigmatisées que d'autres. Toute la question de la psychiatrie, il y a une énorme question de stigmatisation de la psychiatrie. Et d'ailleurs, notons que la Covid a été un événement très intéressant et pertinent sur la question de la déstigmatisation de la question de la psychiatrie. Et d'ailleurs, vous parlez, on entend de plus en plus cette question de la santé mentale. C'est-à-dire qu'on a enfin découvert que, en fait, la santé mentale, c'est de la santé. Je caricature là aussi, mais et ça, c'est lié également à l'expérience du confinement et de tout ce que ça a généré comme problématiques psychiques, troubles anxieux, etc. Mais c'est lié aussi à la transition épidémio qui nous constitue aujourd'hui avec les maladies chroniques, parce que le premier passager clandestin de la maladie chronique, c'est la question de la santé mentale. C'est déterminant, parce que quand vous êtes malade, entre guillemets, sur des cliniques de rétablissement, sur 20 ans, 10 ans, 15 ans, etc., que toute la norme de vie doit être réinventée à partir de cette maladie, bah, si vous voulez, la question de la santé mentale, c'est véritablement clé. Donc, aujourd'hui, et puis on a tous fait l'expérience de ces pertes de chance sur quantité d'autres pathologies. Donc c'est ça, on revient encore à la question de départ sur la question éthique. À un moment donné, moi je suis vraiment comme Jean-François, je pense que la question de la vulnérabilité, c'est-à-dire de la prise en considération de la vulnérabilité, doit orienter les choix de nos politiques publiques. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, parce que les vulnérabilités, elles bougent. Et ça a été justement avec le pacte scientifique, tout d'un coup, on travaille à être au plus près d'une qualification de telle ou telle vulnérabilité. Donc ce n'est pas définitif, il n'y a pas une essentialisation de la vulnérabilité. Mais en revanche, il y a, oui, une prise en considération de dire c'est ça la norme et ce n'est pas non pas une norme d'excellence fantasmatique. Ça, c'est des régimes de non-état de droit qui privilégient plutôt ce type de normes.
J'aimerais qu'on évoque le principe d'inégalité cette fois-ci, parce qu'il est intrinsèque en fait au modèle libéral et capitaliste. C'est même un principe cardinal hein, de notre modèle. Pourquoi ne pas accepter finalement qu'il existe des valeurs de vie disparates? Et je vais prendre pour ça deux exemples. Le premier, c'est l'aspect économique, hein, extrêmement prégnant. Au moment où le coût des nouvelles technologies, des nouvelles thérapies, des nouvelles molécules explose, en face de ça, les ressources publiques vacillent. À un moment, comment allons-nous arbitrer entre ceux que nous devons aider et ceux que nous ne pourrons pas aider? Deuxième exemple, le postulat, le dogme même aujourd'hui de la performance physique et qui disqualifie tous ceux qui s'en écartent. Demain, est-ce qu'on devra assumer de discriminer une personne qui fume, qui se nourrit mal, qui ne pratique pas de sport? Et tout ça, ça pose en fait la valeur d'existence de ce qu'on appelle les dissidents de la norme. Donc je reviens à la question finalement d'inégalité. Devons-nous accepter justement le principe d'inégalité?
Alors, on a dans notre ADN français et républicain cette grande notion d'essayer d'avoir une égalité de l'accès aux soins, hein, qui est en partie vrai en France, en partie seulement. Néanmoins, notre système de santé français, extrêmement critiqué, reste à mes yeux un système de santé solide qui doit sûrement se bouger, mais reste un système de santé qui justement essaie d'aller vers une certaine forme d'égalité. Malgré tout cela, vous le savez, il y a des différences de durée de vie importantes, hein, entre l'exemple du RER B est souvent cité, mais je le recite parce qu'il est pas suffisamment connu. Entre Sceaux et le 9-3, il y a pratiquement 8,5 d'années de différence de durée de vie, hein. Et on doit en tenir compte. Par ailleurs, on sait également, et les différentes équipes de géographes, d'économistes de la santé, on définit 39 zones, il ne s'agit pas de régions, mais de zones en France qui cumulent à la fois la pauvreté, la difficulté d'accès à l'école, la difficulté d'accès aux soins, et qui posent la question, donc on sait où elles sont, d'ailleurs elles sont sorties au moment du Covid, hein, et qui posent la question de l'égalité versus l'équité. Et cette notion d'équité qui voudrait dire qu'on met les moyens là où il y en a le plus besoin. Et notre État républicain a énormément de mal à le faire. Il l'a un peu fait sur les écoles, en doublant les profs dans des petites classes dans ces zones les plus fragiles. Il arrive très difficilement à le faire au niveau de la santé.
Pour des raisons, pardonnez-moi, constitutionnelles ou plutôt idéologiques ?
Non, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de réflexion. Le politique, d'abord, ça fait peur. Ça fait peur de passer d'une notion d'égalité sur laquelle il y a un certain consensus sur le modèle à une notion d'équité en termes de décision de politique publique. Et puis, sur le fond de ma pensée, je pense que ça pose la question de la construction de la politique publique et de la décision de politique publique. Et en ce moment, on est en panne sèche en France sur comment on construit la politique publique, hein, à la fois dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines. Donc le politique a peur d'entendre ça. Il a peur d'entendre cette notion d'équité. Parce que ça veut dire que comment on va définir, sur quoi on va s'appuyer, quels seront les arguments qui ne correspondent pas forcément, qui sont sur le temps long, qui ne correspondent pas au temps court de la vie politique. Mais il faut les interpeller, les interroger, et vous interroger vous-même en tant que citoyen dans la salle. Est-ce que vous allez plutôt vers l'égalité, et vous pensez qu'on doit poursuivre cette vision-là? Et la France est pour ça assez bon élève. On l'a vu, par exemple, au moment du Covid par rapport aux États-Unis, hein, où l'accès aux soins est extrêmement difficile. Ou est-ce qu'au contraire, on essaie de faire mieux et on va vers l'équité, c'est-à-dire mettre les moyens là où il y en a vraiment le besoin?
Cynthia, si Jean-François vous posait la question, que lui répondriez-vous, justement?
Ah ben je répondrais qu'en fait, on est obligatoirement dans une dialectique, si vous voulez. Si vous voulez faire accepter régulièrement l'équité, vous devez donner régulièrement des preuves d'égalité au sens plus universaliste du terme. Et en fait, c'est un dialogue constant, intelligent, argumenté, controversé. Et souvent, il faut donner à voir aussi cette controverse pour la faire comprendre, parce que sinon, c'est simple, ça ne peut pas se faire, hein. Donc, c'est un enjeu absolument clé, mais c'est un enjeu totalement en dialogue et argumenter sans cesse. Alors sur la question des inégalités, de l'inégale valeur des vies, c'est une des grandes questions de la philosophie morale et politique, mais de fait, vous avez on va rappeler quand même des choses toutes simples, si vous voulez. Les vulnérabilités, à part celles qui sont ontologiques, vivre, mourir, traverser la maladie, toutes les autres vulnérabilités sont des vulnérabilités aussi construites socialement avec des qui sont prises dans des pièges de déterminismes sociaux, culturels, historiques, etc., qui sont prises également dans des caractéristiques économiques. Nous avons un marché des méritocraties, c'est-à-dire qu'il y a quantité de mérites, il y a une pluralité des des mérites. Tous n'ont pas une égale valeur économique. Tous ne vont pas vous amener tel ou tel statut. Donc nous construisons socialement les valeurs des vies. Hein, elles ne sont pas que, entre guillemets, renvoyées. Donc après, la question, c'est de savoir comment on fait, à un moment donné, pour prendre en considération de la manière la moins dangereuse possible pour l'ensemble de ces vies, comment on fait une théorie du moindre mal. Et souvent, pour faire une théorie du moindre mal, on va poser par principe, de fait, l'égale valeur des vies. Parce que c'est ça qui est sans doute le plus protecteur. Mais dans les faits, non, il n'y a pas d'égale valeur des vies, dans le sens où, bien évidemment, si vous mélangez, si tout simplement, si vous reconnaissez même la question existentielle, la question du mal, la question de la liberté, la question de la responsabilité, ça vient aussi densifier différemment la question de la valeur de la vie. Donc si vous reconnaissez une liberté, de fait, vous reconnaissez une forme d'inégalité des vies. Mais de manière universelle, pour protéger au mieux ces êtres humains et pour essayer d'avoir un système le moins dangereux possible, encore une fois, pour la préservation de la dignité humaine, la question de l'universalité, de l'inconditionnalité de la valeur des vies, elle est sans doute plus protectrice.
Mais si je fume, je picole, je fais la fête, je ne fais pas de sport, est-ce que demain, et déjà maintenant, dois-je accepter
non.
que le système ne me reconnaisse pas de la même manière qu'ils
non, ont. Parce qu'on travaille malgré tout, si vous voulez, depuis Nuremberg, on a une des grandes essentialités de notre système de soins qui est construit sur le consentement aux soins. Donc on ne fait pas du soin sous contrainte, on n'attrape pas les gens qui fument, qui ne font pas de sport et on les met au goulag de la santé. Hein, on n'a pas encore, on n'est pas dans cette idée-là de c'est ça la santé. On essaye de comprendre pourquoi éventuellement il n'y a pas de consentement aux soins et on voit d'ailleurs très bien que le consentement aux soins se construit dès l'enfance. C'est-à-dire que la conscientisation que tiens, je dois prendre considération de mon corps est une considération culturelle très souvent et que c'est aussi une considération économique. Quand vous avez des choix entre il y a le feu à la maison et tiens, je dois aller m'occuper de moi pour régler telle ou telle question, ben, vous faites des arbitrages particuliers. Donc je ne dis pas ça pour déresponsabiliser, je dis bien évidemment que en plus le non-consentement aux soins, la conduite à risque, l'addiction, tout ça ne sont pas des choix nécessairement conscientisés, volontaires, de non-volonté de bien se soigner, etc. Donc la santé, c'est d'amener les uns et les autres vers une prise en considération de leur corps qui est plus bénéfique pour eux-mêmes et en plus plus bénéfique pour la société. Et donc pour ça, il faut préserver la prise en considération de la liberté des individus, de leur consentement, tout faire pour que nos systèmes essayent de faire ce qu'on fait, l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire de faire advenir ce consentement. Et puis parfois, il y a des échecs. Il faut pouvoir les reconnaître. Et puis parfois, il y a de fait du grand réfractaire. Et voilà, et c'est toujours un échec. Mais ça ne peut pas, si vous voulez, transformer la norme de fonctionnement et dire demain, c'est simple, la santé, c'est du monitoring de la santé.
Jean-François, vous voulez réagir ?
Moi, deux remarques. La première, c'est que en discutant autour des vulnérabilités, qui est un point essentiel pour nous deux en particulier, on ne doit pas oublier non plus que la science avance et que c'est extraordinaire la révolution biologique qui est en train de se produire. Pour ceux qui sont médecins dans la salle, qui lisent très régulièrement le New England Journal of Medicine, moi je suis frappé, chaque semaine j'ai un choc par l'arrivée d'une nouvelle thérapie innovante, dont on rêvait dans une certaine mesure. Alors, que les marqueurs et les premières thérapies d'Alzheimer avec certains monoclonaux bon, sont un exemple. On est au début, ça marche pas très bien, mais ça va mieux marcher. On a les CRT cells, on a les premiers résultats de thérapie génique vraiment solides qui touchent pas seulement des populations. Les populations très, très localisées, mais avec des thérapeutiques plus globales, qui avaient sur des pathologies qui sont moins rares que qu'on le pensait. Enfin, on est en pleine... La révolution biologique, elle n'a pas eu lieu en 2000, elle a lieu maintenant, à mes yeux. Hein. On n'était qu'à l'apéritif de ce qui est en train de se passer. Avec des coûts exorbitants, qui font que les économistes de la santé... alors que le médicament a été jusqu'à maintenant autour de 8% dans les dépenses de santé en général en France, les économistes de la santé disent qu'en 2030, si on laisse partir les choses de ce type-là, on va se retrouver à 21% en très peu de temps. C'est-à-dire qu'avec un fossé qui est en train de se créer. Et bien sûr qu'il va poser le problème de qui aura accès à ces molécules et qui aura accès à la pathologie innovante. Et inversement, la science avance, elle doit continuer à avancer et elle doit pouvoir être délivrée, entre guillemets, à ceux qui en ont besoin, y compris les populations les plus vulnérables. Donc, qui fait le choix? Comment on construit? Et c'est très difficile.
C'est là que devrait intervenir, pardonnez-moi, ce qu'on appelle la démocratie en santé.
Ah, mais je pense que c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que qui décide? C'est vous qui décidez. C'est pas nous. C'est pas le politique. Le politique, il... 7e ministre de la Santé, M. Valletoux va venir tout à l'heure, mais je lui dirai la même chose d'ailleurs. 7e ministre de la Santé depuis, qu'on a le président Macron. Bon, comment voulez-vous qu'il pense quelque chose?
Il est content de cette présentation.
Il pense 10 jours et ensuite ils sont pris par la valse des problèmes à résoudre. Il n'y a personne qui réfléchit, qui construit, qui réfléchit en ce moment. Le plan ne le fait plus. On a eu pendant très longtemps un plan en France qui réfléchissait avec un certain nombre de grands messieurs, de grandes dames. Qui réfléchissait, on n'a plus personne. Il n'y a pas, au niveau du ministère de la Santé, le ministre arrive, il n'y a rien sur la table pour lui dire, voilà, sur les 3-4 grands sujets, vous avez le choix. Puis après, c'est un choix politique.
Jean-François, je m'excuse de vous interrompre, parce que ça, justement, on en parlera tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, mais je tenais à le dire.
Mais absolument, parce que c'est, non, parce que c'est au cœur.
Je tenais à le dire parce que sur les choix, ça se construit en démocratie, en santé. Et il faut de plus en plus que sur des choix aussi difficiles, la voix des citoyens puisse s'exprimer.
Alors justement, parce que c'est malheureusement le moment de conclure, on va parler justement du débat sur la fin de vie, parce que c'est un bel exemple hein, quand même de ce que peut être la démocratie en santé. Mais juste avant, une petite question avec si possible des réponses assez courtes. Nous nous précipitons avec enthousiasme et aussi avec effroi dans ces nouvelles technologies dont vous parlez, intelligence artificielle en tête. De quelle manière cela peut-il modifier notre référentiel des valeurs de vie?
Ah ben, de toute façon, l'IA, si vous voulez, elle transforme. Alors, en plus, dans le monde de la santé, on sait à quel point elle est clé dans tous ces apports, que ce soit de la chirurgie robotique, de l'aide au diagnostic, demain de la sécurisation malgré tout de tous les événements indésirables, etc. On voit les blockbots arriver dans, je vous renvoie aux travaux de la chaire BOPA, notamment à la paix, qui travaille sur le bloc opératoire augmenté et comment l'IA vient transformer tout. Ben, si vous voulez, c'est vraiment une des grandes questions concernant l'IA, c'est la garantie humaine de la décision agrémentée et complémentarisée par l'IA, donc malgré tout d'avoir un accès sur cette ingénierie algorithmique pour comprendre comment sont produits demain des décisions, etc., ce qui est quasiment improbable. Donc il va falloir trouver toute une sécurisation éthique de cette chaîne algorithmique. Je ne sais pas comment on peut dire cela. Et puis vous avez encore une fois la question, liberticide. C'est-à-dire qu'on a une IA qui est extraordinairement efficace, mais avec essentiellement qui va faire rentrer des data. On connaît toute la question de la discrimination des data, des biais, etc. Et donc sur cette correction-là, pour ne pas avoir une IA qui vient renforcer plutôt les fractures déjà préexistantes, ce sera un travail constant de co-designer, si j'ose dire, les protocoles qui sont liés à l'IA avec les sciences humaines et sociales.
Jean-François, adieu. Non, la question justement, je suis désolé, mais j'essaie de respecter le timer, c'est très important. Adieu au corps médical, à l'arbitrage politique, à la société ou seulement à moi-même. À qui mon corps, ma conscience, mon âme appartiennent-ils? Alors, c'est à mes yeux un peu la question centrale, en fait, qui résume le débat sur la fin de vie. Le débat parlementaire va s'ouvrir dans quelques semaines, mais la commission spéciale a déjà commencé ses travaux cette semaine, avec d'ailleurs des premières fractures, les premières dissensions. Finalement, ce débat sur la fin de vie, l'exemple de démocratie en santé qu'il a proposé, est-ce que ce n'est pas simplement, il faudrait peut-être le réduire à ça, une possibilité supplémentaire de mettre fin à nos souffrances et non pas une option qui se substitue à d'autres, comme c'est souvent le cas finalement comme on le perçoit dans le débat public et politique.
Très rapidement sur un sujet ô combien difficile, oui. Intime, humain, enfin, qui, voilà, c'est terrible de résumer ça en deux minutes. Oui. Hein,
je suis désolé.
Je dirais que à partir d'un avis du CCNE de septembre 2022, qui est retrouvé en grande partie dans la loi qui est en train d'être discutée, s'est construit à mes yeux ce débat. Avec les citoyens, avec à la fois la Convention citoyenne, qui a été de très grande qualité, avec force de proposition, plus de 600 débats menés par à la fois le CCNE, les espaces éthiques régionaux en région, des prises de position des différentes grandes instances. Et ce temps de démocratie, d'écoute des citoyens dans ce triangle où la construction justement des grandes décisions de santé doit tenir compte à la fois de l'expertise des médecins, des scientifiques, mais tenir compte également des citoyens. Et puis ensuite, la décision, on est une vraie démocratie, elle doit être éminemment politique. Moi, ça m'apparaît intéressant comme modèle, à la fois pour la fin de vie, c'était un sujet à la fois très difficile, mais bon, relativement circoncis, si je peux dire. Il m'apparaît comme modèle de renouveau démocratique possible dans une démocratie française qui est complexe en ce moment. On peut imaginer d'aborder d'autres grandes questions en santé. L'accès à l'innovation, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles grandes décisions on va prendre par rapport à l'ensemble des innovations thérapeutiques ? Et puis, on pourrait probablement élargir le débat sur certains sujets qui sont loin d'être... qui font loin de faire le consensus. Par exemple, avoir une vraie réflexion sur la migration. Et à la fois en s'appuyant sur de la base scientifique, sur du data, d'une vision citoyenne et ensuite d'une décision politique sur un certain nombre de sujets, plutôt que de continuer à s'invectiver sur un sujet qui, de toute façon, va être là sur les 20 prochaines années dans nos démocraties européennes. Donc, à la fois, je suis intéressé par ce qui s'est passé sur la fin de vie, sur le fond lui-même et sur la forme. Et c'est ça qui m'intéresse.
Cynthia, pour conclure.
Oui, non, dans le même genre. Je pense, si vous voulez, que ce qui se joue dans cette... on a la fin de vie sur les X années qui viennent de se découler et on est encore dans un processus. On voit la nécessité de cette temporalité de la construction de la qualité de la décision démocratique. Et ça, c'est essentiel. Et on voit que ça prend du temps. Et on devrait il y a sans doute un modèle, vous voyez, où le Parlement a un rôle, final, souvent, où les sociétés savantes ont des rôles, où le CCNE a un rôle, où les conventions citoyennes ont un rôle. Et en fait, on est en train d'inventer, si vous voulez, ce mix de représentativité et de participation, et surtout de construire de la délibération fine, parce que c'est ça qui a été l'enjeu clé, c'est-à-dire que chacun a modifié petit à petit, a densifié ses arguments, ses opinions, beaucoup de gens ont changé, ont varié, et c'est ça qui est intéressant, mais vous voyez, ça demande du temps. Et par exemple, faire ça sur la question de la migration, bien sûr, mais sur la question des retraites, ça aurait été particulièrement... Dès que vous avez des grands sujets, en fait, vous devez construire et l'intelligence du sujet et le consentement à la transformation liée à la compréhension de ce sujet. Et ça demande du temps. Sinon, derrière, vous avez du blocage et vous avez du rétropédalage constant.
La démocratie en santé étant un support de la démocratie représentative, il faut simplement espérer que maintenant le débat parlementaire ne soit pas bâclé pour sortir juste avant les européennes. Merci beaucoup, Cynthia Fleury et Jean-François Desfrissy, pour cette ouverture.